bouche à oreille. Une émission de la rédaction de RVM.
Bonjour les auditeurs de RVM, c'est le bouche à oreille numéro 367. Et aujourd'hui, nous recevons le lycée horticole de Ribécourt, représenté par son directeur ou son proviseur ou les deux, Monsieur Toussaint. Bonjour.
Bonjour.
Donc on posera la question après, savoir si vous êtes proviseur, directeur ou les deux. Et accompagné de deux professeurs en aménagement du paysage, Monsieur Benfried.
Bonjour.
Et Monsieur Rousseau.
Bonjour.
Donc, messieurs, bienvenue dans nos ateliers, on va dire aujourd'hui, parce que on va parler d'horticulture, de paysage et tout ça. Et je suis accompagné de Luc à la technique, notre marsouin. Je ne sais pas s'il s'y connaît en horticulture, mais on va voir. Et notre spécialiste de l'environnement, Hervé.
Bonsoir à tous.
Donc, Hervé, il est spécialiste de tout. Qu'on soit du sport, il est spécialiste du sport. Qu'on soit la culture, il est spécialiste de la culture. On le mange à toutes les sauces.
Oui, mais là, c'est parce que je les ai rencontrés, ces gens-là.
Exactement. Donc, tu es à l'origine de cette émission, on peut dire.
Exactement. Lors d'une rencontre, on l'a fait à Chantilly.
À Chantilly.
Journée des plantes de Chantilly.
Voilà. Le décor est planté, on peut dire.
Exactement.
Très Alors, bien. On va rappeler quand même aux auditeurs que nous avons le Facebook de RVM FM. Et le mail auditeur au pluriel @rvmfm.com si vous voulez réagir à cette émission. Si vous voulez poser des questions, on transmettra au lycée horticole de Ribécourt. Donc j'avais quand même la première question. Monsieur le directeur ou monsieur le proviseur ?
Les deux, mon capitaine.
Ah ben voilà.
Voilà. Oui, parce que c'est un peu particulier. Donc le lycée horticole ou l'EPL, donc horticole de Ribécourt, donc établissement public local, et dépend du ministère de l'Agriculture. C'est l'enseignement public. Et en fait, cette particularité d'un EPL agricole, c'est qu'il regroupe les trois voies de formation. Donc l'enseignement adulte. Donc les stagiaires adultes, l'enseignement par l'apprentissage, donc l'alternance, et puis le scolaire. Voilà. Et en fait, il y a un directeur qui chapeaute un peu l'ensemble de l'établissement, puisque ça s'appelle un établissement. Et dans cet établissement, il y a un lycée. Et de fait, le directeur de l'EPL est toujours proviseur du lycée. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut m'appeler directeur, proviseur, ça dépend en fait, voilà, si je m'occupe du lycée ou si c'est plutôt de l'EPL en général.
Très bien. Donc Monsieur Toussaint, il faut avoir des compétences en horticulture pour être directeur ou proviseur d'un lycée horticole ?
Des compétences, pas forcément, de l'appétence, oui.
D'accord.
Voilà, après, on a des spécialistes parmi tous les enseignants, directeurs d'exploitation, etc. Donc, en effet, moi, je viens plutôt de l'agriculture, dans le poste précédent, mais avec quand même des connaissances sur la terre, sur les végétaux, etc. Donc, voilà. Et puis, beaucoup d'appétence pour ces métiers.
Et donc, vous êtes à Ribécourt depuis combien de temps ?
Je suis arrivé en septembre, donc voilà.
Donc c'est tout récent.
C'est tout récent. Je suis dans ma première année sur Ribécourt. Avant, j'étais en Normandie.
Ah, ça change un petit peu, oui.
Oui.
Ouais, c'est pas très loin, la Normandie,
ça va. C'est pas très loin, ouais. Tout à fait.
Alors, on va faire connaissance maintenant avec vos professeurs. Donc, vous avez ramené deux professeurs.
Deux.
Qui sont en vacances, normalement, mais qui sont quand même venus ce soir. Merci, messieurs, d'être venus.
Toujours très dévoués, oui.
Oui, c'est gentil. Donc, on commence par qui veut se présenter en premier ?
Bon, je vais me présenter.
Allez, c'est parti.
Allez. Yannick Rousseau, donc moi je suis donc enseignant donc en technique en aménagement du paysage et je suis aussi le coordinateur donc du CAP jardinier paysagiste, donc en formation initiale par voie scolaire, parce que nous avons aussi un CAP en jardinier paysagiste, mais en formation initiale par apprentissage. Voilà.
D'accord, donc ça veut dire qu'apprentissage, ils ont une période chez leur patron et une période à l'école, quoi,
tout
au
à
collège.
Fait. Oui. Tout à fait. L'apprentissage, effectivement, se différencie un petit peu de la formation initiale par voie scolaire par rapport à une alternance, effectivement. Donc ils ont, on va dire, une alternance d'une semaine ou 15 jours chez le patron et une semaine ou 15 jours sur le CFA. Tout à fait.
Alors, aménagement du paysage, ça veut dire, on peut le traduire comment ?
Alors, l'aménagement du paysage, on peut le traduire de différentes façons. C'est une manière de structurer, je dirais, l'environnement, l'environnement, je dirais, quotidien, de deux façons. Soit avec des plantations, puisque dans le paysage, il y a, je dirais, la verdure, qui est important. Et puis, c'est aussi structurer l'environnement par des constructions maçonnées, c'est-à-dire des constructions, des voies de circulation, qui font appel à des matériaux, qui peuvent être des matériaux naturels, c'est mieux, et puis des matériaux reconstitués aussi, quand on selon, je dirais, l'environnement dans lequel on se situe.
Alors, et on devient comment professeur dans ce lycée pro ?
Alors, on devient professeur dans ce lycée professionnel, je dirais, pour ma part, comme diraient les Anglais, by chance. C'est-à-dire que j'ai rencontré, je dirais, ce métier-là, on va dire, un peu par hasard. J'avais une collègue qui était sortie de la même école d'ingénieur que moi et qui avait fait ce cursus-là. Et j'ai décidé de voir ce que c'était. Et
ça vous a plu, quoi.
Ça m'a plu. J'ai découvert donc un métier. Je me suis professionnalisé parce que enseigner, transmettre du savoir, c'est effectivement transmettre à la fois c'est son envie, bien entendu, parce qu'il faut donner envie aux jeunes. Et pour donner envie aux jeunes, il faut avoir envie de transmettre, je dirais, son savoir. Et puis, c'est aussi une façon d'appréhender le jeune, parce qu'on peut avoir envie de transmettre, mais la professionnalisation, c'est aussi structurer les choses. C'est structurer les choses par rapport à des programmes, parce qu'on a des programmes aussi sur lesquels nous nous basons pour pouvoir transmettre, je dirais, notre savoir. Et cette structuration, c'est ce qui permet, je dirais, de former des jeunes et de les amener, je dirais, à avoir des qualifications et des compétences par la suite.
Et vous êtes en poste depuis combien de temps, Henri Bécourt ?
Alors, sans vouloir... on va dire que je fais un peu partie des murs. Je suis arrivé à Henri Bécourt en 95.
Ah oui. Donc là, donc un tout jeune, là, et donc là, un ancien, on peut dire.
Voilà, alors, c'est cela.
Dans le poste, hein, je parle, attention, je parle pas d'âge. Monsieur Benfried.
Et puis moi, je vais faire la moyenne, du coup.
Eh ben voilà, alors, entre deux.
Entre deux. Donc effectivement, Mehdi Benfried, donc je suis enseignant au lycée horticole et du paysage de Ribécourt depuis 2007, hein, voilà la moitié. Et donc j'enseigne les aménagements du paysage. Et donc moi, je suis coordinateur de la seconde, ce qu'on appelle NJPF, Nature, Jardin, Paysage. Donc c'est une classe de détermination. Donc les jeunes élèves arrivent dans cette classe et puis après s'orientent soit en production horticole, soit en aménagement du paysage, mais le plus souvent ils restent en aménagement du paysage. Et puis donc je m'occupe aussi de la gestion du parc, donc de notre magnifique parc de 13 hectares.
Oui, c'est un beau parc, 13 hectares. Hein, c'est, ouais. Il y a de quoi vraiment profiter un maximum pour les jeunes et tout ça. Ils peuvent se balader comme ils veulent, ils peuvent profiter un petit peu d'activités autour du parc.
Alors d'activités, ils peuvent se balader, se promener comme ils le souhaitent, mais c'est surtout aussi un magnifique un magnifique terrain de travail pour justement réaliser les aménagements du paysage, de la maçonnerie paysagère, des plantations, de l'entretien, qui est le cœur même de notre métier.
Alors, juste avant de donner la parole à Hervé, j'ai vu que je vous avais mis des poulettes en ce moment dans le parc et des trèfles. C'est quoi cette histoire, alors ? Ils vont s'amuser, les jeunes, pendant l'été, là ? Mais c'est fermé, le lycée, non ?
Le lycée, alors, est fermé administrativement 3 semaines. Hein, donc, là, il est ouvert jusqu'au 26 juillet. Et il ferme entre le 26 juillet et le 15 août, simplement. Hein. Mais du coup, il y a quand même de l'activité. Et on travaille aussi avec la mairie de Ribécourt. Et on a des activités. D'ailleurs, demain soir, il y a la fête des jeunes sur le Ribécourt qui se fera dans le parc du château.
Très bien. Hervé, je t'ai coupé la parole.
Non, simplement, comme on parlait du parc, le parc, il est écolabellisé. On peut savoir ce que ça veut dire.
Alors, tout à fait. Nous avons des labellisations sur le parc, notamment la labellisation LPO, pour la protection des oiseaux. Et nous sommes labellisés aussi Écojardin. Donc, Écojardin, c'est quoi ? C'est un label qui va permettre à l'établissement, du moins au parc, de respecter l'environnement, notamment notre façon de faire, hein, d'un point de vue faunistique, floristique, gestion de l'eau, etc. Mais aussi, ça va nous servir à apprendre à nos élèves à gérer harmonieusement les espaces verts dans le cadre de leur futur métier.
C'est les produits que vous utilisez, sont des produits éco-responsables.
Oui,
genre les purins d'ortie, purins de rhubarbe, machin, tout ça.
Alors,
pas des choses dans ce genre-là.
Effectivement, on va utiliser des produits, alors des produits qui peuvent être effectivement des décoctions, je dirais, d'ortie ou de rhubarbe, pourquoi pas. Le label Écojardin, c'est un outil de gestion, je dirais, de l'environnement, d'un environnement structuré. Et cet outil de gestion, il sert aussi, je dirais, d'outils pour apprendre. C'est-à-dire apprendre, je dirais, auprès de nos futurs professionnels que nous allons former, que sont les jeunes. Et c'est important parce que aujourd'hui, avec le plan Ecophyto, au niveau, je dirais, de l'environnement immédiat dans les villes et même chez les particuliers, on ne peut plus utiliser de produits phytosanitaires. Mmh. Donc, il est important que les jeunes qui vont soit être des responsables techniques au sein de villes ou des agents techniques dans les villes, mais aussi, je dirais, des responsables d'équipe, des ouvriers au niveau des prestataires de services que sont les entreprises du paysage, doivent avoir les nouvelles techniques, les nouveaux codes pour pouvoir entretenir d'une autre façon, de manière plus respectueuse, en limitant aussi l'impact sur l'environnement, et puis en limitant aussi, parce que c'est d'actualité, le bilan carbone.
Et qu'est-ce qui délivre ce label ?
Alors, ce label Écojardin, il est délivré par une association qui est Plantes et Cités, qui regroupe en fait à la fois des mairies, des représentants des entreprises du paysage,
Des établissements publics,
des lycées, et donc il y a toute une grille de critériés, je dirais, pour répondre à ce label. Et le lycée horticole de Ribécourt fait partie, je dirais, du conseil d'administration de Plantes et Cités.
Il y a aussi, je vois comme à Crépy, c'est Ville Fleurie, où il y a 3 étoiles à Crépy, donc il y a tout un protocole aussi respecté sur l'environnement et tout ça, la façon de gérer, hein. Donc ça ressemble un peu à ça, quoi, là.
Alors, c'est effectivement, ça ressemble à ça. Alors, la différence entre les villes fleuries au départ avaient pour objectif, je dirais, de travailler essentiellement sur l'embellissement, je dirais, et le fleurissement des villes. Et puis, bien entendu, à un moment donné, lorsque la contrainte environnementale s'est imposée, je dirais via la réglementation, parce que il y a aussi effectivement des choses qu'on peut faire de manière volontaire. Et puis, il y a quelquefois aussi des contraintes qui s'appliquent de manière aussi réglementaire. Et le label, je dirais, Ville Fleurie a, je dirais, pris en marche, je dirais, les choses, c'est-à-dire à orienter effectivement, c'est-à-dire pas uniquement un fleurissement à tout prix, au détriment, je dirais, de l'environnement, mais aussi un fleurissement qui soit harmonieux entre ce qu'on pourrait appeler les plantes horticularisées, c'est-à-dire les plantes que l'on produit, je dirais, au niveau des établissements de production, mais aussi ce qu'on pourrait appeler... Alors, on n'a plus le droit de parler de mauvaises herbes, parce que toutes les plantes, je dirais, autour de nous ont une utilité. On ne peut plus parler non plus d'adventices, mais plutôt de plantes autochtones, de plantes, je dirais, qui peuvent être intéressantes à un moment donné. On peut, pourquoi pas. Quand vous prenez un bugle, par exemple, ça a une petite floraison violette. Le bugle, pourquoi pas, à partir du moment où on arrive à maîtriser, bien entendu, son développement, on peut, pourquoi pas, l'intégrer dans un aménagement plus structuré. Il a sa place.
Oui. Mais il y a aussi des plantes envahissantes quand même qui n'ont pas leur place ici et qui ont été ramenées d'autres pays qui peuvent poser des problèmes. Hein.
Alors je reprends un peu Yannick. C'est pour cela qu'on travaille aussi, on apprend à nos élèves, nous apprenons la gestion différenciée des espaces verts. Donc c'est-à-dire que l'on va apprendre à gérer différemment chaque espace. Donc chaque zone où nous nous trouvons, hein, ça peut être à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une région, à l'échelle d'un petit village. Et donc on va leur apprendre justement à respecter la nature et à adapter un entretien intelligent là où nous nous trouvons.
Okay. C'est faire un mixte entre ce qui est permanent et ce qui est annuel aussi.
Ça peut être comme ça aussi, oui.
Ça peut être vu de cette façon. C'est surtout faire un mixte, je dirais, entre une organisation, on va dire spatiale. Nous avons sur le site de Ribécourt, qui fait 13 hectares, 21 zones de gestion. Donc différenciées, forcément. D'accord. Et en fait, il y a des zones où on va avoir une intensité d'intervention importante. Bon, c'est sûr, quand on se trouve autour du château, c'est quand même une zone de prestige.
C'est impeccable.
Là, on va intervenir de manière importante. L'intensité et la fréquence, je dirais, de l'intervention, on va dire, du jardinier paysagiste, elle est fonction, en fait, du but ou de l'objectif que l'on va avoir dans la zone. Effectivement, autour du château, l'objectif, c'est quand même du prestige, c'est d'accueillir les apprenants, mais aussi les personnalités de l'extérieur. Et donc, forcément, on a une intensité importante en termes de traitement et de fréquence. Puis après, il y a des zones qui sont, on va dire, un peu plus sauvages. Et donc, qu'on va traiter de manière paysagère, de manière différente, parce que, d'une part, il peut y avoir un objectif écologique, servir de niche. On a quand même aujourd'hui, si on est devenu réserve LPO, c'est parce que nous avons, non pas forcément des oiseaux ou des espèces rares, mais à la faveur, en fait, d'une écoute qui avait été effectuée par la LPO, par l'intermédiaire de Mme Caroline Dutilleul, qui est notre collègue donc, spécialiste en biologie, eh bien, la personne de la LPO qui était venue se déplacer nous avait demandé alors, écoutez, est-ce que ça vous intéresserait, je dirais, d'être zone LPO ? Alors on s'est demandé pourquoi. Et en fait, il est apparu que nous avons une collection, si vous voulez, d'oiseaux assez riche. Ce n'est pas forcément des individus, on va dire, rares, mais une collection très riche. Et à l'époque, pour la petite histoire, on entretenait un tout petit peu, je dirais, le devant du château. On utilisait encore un produit qui aujourd'hui n'a plus cours en utilisation, qui est le glyphosate, le fameux Roundup, entre guillemets, dont on a tant parlé. Et c'était à la marge. Et il ne nous a pas fallu grand-chose, en fait, pour le supprimer.
Ouais. Ça oblige à avoir des zones différenciées quand même, au niveau des coupes et tout ça.
Alors ça oblige effectivement à avoir des zones différenciées en termes aussi d'intervention sur le végétal, de taille, effectivement, de fauchage. Il va y avoir des zones qu'on va faucher une fois par an. Quelquefois, on a un arboretum et on fauche, mais on fauche uniquement, je dirais, de façon à dégager des allées pour permettre
la déambulation dans
cet arboretum. Mais on va garder quand même au pied, je dirais, des individus, ce couvert végétal qui va permettre d'abriter et de favoriser la biodiversité.
C'est une gestion raisonnée.
Ouais.
Hervé, on passe à ta chronique.
Une petite chronique, oui.
L'explication d'Hervé, ou l'art de décaler les sons.
Alors, je vous fais une petite fleur. J'espère que vous n'allez pas m'envoyer sur les roses. Moi, j'aime bien, dans le bouche-à-oreille, parler des invités, de leur parcours, de leur activité. Alors là, évidemment, avec l'avenue du lycée horticole de Ribécourt, il faut que je me mette au travail. Alors, pour cette dernière chronique, il va y avoir du boulot. Il faut que j'élabore une stratégie. Il ne faut pas que je me berce d'illusions. J'ai du mouron à me faire si je ne veux pas être à l'OS. Vite, un remontant pour renouer avec le succès. J'hésite, camomille ou chicorée, j'ai pas la réponse, évidemment. Je n'ai plus de temps à perdre. Je sèche, ma matière grise est absente, je sais plus quoi penser. Que dirait Lupin dans un moment pareil ? Il dirait, ce que tu lis là, ça n'a pas de sens, il n'y a plus qu'à se taire.
Ah, dis donc, oui.
Bravo.
Il faut venir au lycée horticole de Ribécourt.
Tu vas pouvoir travailler plus précisément sur même pour ton jardin. Peut-être que ça va te donner des idées.
Oh, mais c'est bon, le jardin, ça marche.
Tu maîtrises.
À la maison, c'est... Oui.
Ok. On vous dépendait du ministère de la Culture et de la Souveraineté Alimentaire.
L'agriculture.
D'ailleurs, c'est une question. J'ai dit quoi, moi ? Ah oui, de l'agriculture, pardon, non. J'ai marqué de la culture.
D'ailleurs, c'est une question qu'on pourrait se poser. Pourquoi vous dépendez du ministère de l'agriculture et pas de l'enseignement ? Puisque vous enseignez, comme d'autres matières, il n'y a pas de raison.
En effet, on est un des seuls corps de métier qui a tout son réseau d'enseignement en dehors de l'éducation nationale.
C'est
une particularité. Et c'est, en fait, je pense que à l'origine, comme on disait tout à l'heure, les terrains de jeu, en fait, les supports pédagogiques des élèves, ce sont des exploitations agricoles. Mmh. Hein. Donc, en fait, c'est un peu plus compliqué à gérer. Les exploitations agricoles, ils travaillent tous les jours, ils produisent, ils vendent, etc. Et du coup, je pense que c'est pour ça que c'est resté dans le giron du ministère de l'Agriculture et pas au ministère de l'Éducation nationale. Mais bien entendu que nous travaillons en complète harmonie avec l'Éducation nationale. Hein. Aujourd'hui, il y a eu... pas mal de rapprochements, hein, et les référentiels, et notamment dans les bacs généraux. Il y a des bacs généraux qui sont faits à l'Éducation nationale, bien entendu, mais aussi à l'enseignement agricole, avec toujours quelques spécialités agricoles. Hein. Mais voilà, après, on est très proche, mais on a encore, en effet, notre réseau, notre ministère de tutelle, bien entendu, notre rectorat, qui est ce qu'on appelle la DRAF, Direction régionale de l'agriculture et de la forêt. Et puis, en effet, il y a aussi le recrutement des enseignants, hein, à part quelques matières un peu particulières comme l'EPS, où il y a très très peu de concours ouverts, il n'y a pas de concours ouverts au ministère de l'Agriculture, et du coup ce sont des gens qui viennent de l'éducation nationale. Sinon, il y a un propre recrutement de l'enseignement agricole et des concours pour être enseignant en maths, français, aménagement paysager, horticulture, etc. etc.
Donc on retrouve les matières comme dans un autre lycée, mais on rajoute bien sûr l'horticulture, le paysagiste, tout ça, voilà. Et justement, l'horticulture, ça consiste en quoi, l'horticulture? Parce qu'il y a peut-être des gens que... Moi, je découvre un petit peu grâce à ce que j'ai vu sur vos flyers et puis sur le Facebook,
oui,
mais on pourrait le définir comment, l'horticulture, alors?
En fait, je vais laisser parler mes collègues après, mais juste, si on veut définir un petit peu les grands thèmes de l'horticulture, si on veut, en fait, on a la fleur, le fruit, le maraîchage et la pépinière. Voilà, on a quatre domaines dans l'horticulture. Et soit on travaille les quatre, soit on en travaille plutôt trois. Voilà, mais et c'est ces trois domaines dans lesquels les élèves vont aller, hein, et vont s'orienter plutôt, en effet, travailler du maraîchage, hein, ou de la floriculture, qui est assez différent quand même. Hein, ce sont des métiers un peu différents quand même. Et du coup, sur Rubicourt, on a la filière horticole et on travaille ces quatre domaines.
Ça permet d'avoir des orientations quand même assez larges.
Voilà, assez larges. Et comme je parlais tout à l'heure d'exploitation agricole, sur Rubicourt, nous avons une exploitation horticole, donc qui produit toute l'année, qui produit des fruits. Quelques fruits, c'est pas énorme, mais avec l'arboretum notamment, on produit du jus de pomme aussi, mais on produit aussi beaucoup de fleurs, hein, qu'on travaille avec les élèves, hein, le bouturage, etc. se fait avec les élèves. On a 3 hectares de maraîchage. Alors toute l'exploitation, du coup, est aussi labellisée en bio. Agriculture biologique. Nous sommes en train de développer la partie pépinière qui était... on avait un petit support pépinière, mais qui n'était pas très très développé parce que on manquait de place aussi. Et là, on a retravaillé le projet d'exploitation et on va travailler de façon beaucoup plus approfondie et développer la production et la vente de produits de pépinière. Voilà, donc c'est... l'exploitation, on a 4600 m² de tunnels ou de serres, hein, donc on produit. Alors, On est en agriculture biologique, donc ce ne sont pas des serres chauffées, spécifiques. Il y a des tunnels pour les légumes, par exemple, hein, ce sont des tunnels classiques, etc. Hein, mais on travaille aussi avec de la permaculture, par exemple. Hein, on développe aussi, puisqu'en formation adulte, on fait des formations adultes permaculture, qui est très en vogue et qui est très intéressant d'un point de vue développement durable, hein, association de plantes, etc. Donc c'est un petit peu ça. Enfin, je ne sais pas si mes collègues vont compléter, hein, mais
très bien résumé, hein.
Les quatre domaines de l'horticulture.
Tout à fait. Hein. Monsieur Toussaint a très bien résumé en fait les activités, je dirais, et le terme horticulture. En fait, on est sur ce qu'on appelle les quatre branches, si vous voulez. Comme Monsieur Toussaint vient de le dire, on a la partie floriculture, je dirais production de plantes fleuries, en fait. Hein. Alors avec des cycles courts, c'est globalement la plante à massif, mais c'est aussi de plus en plus les vivaces.
Parce que c'est les annuelles, en fait. Alors, les vivaces, c'est celles qui, d'une année sur l'autre, reviennent,
tout à fait.
Et les annuelles.
Alors on va avoir les annuelles, les bisannuelles, puisqu'il y a aussi les annuelles, ce sont ce qu'on appelle les estivales, hein, globalement, celles qu'on va retrouver au mois de juin là, dans les massifs. Et puis il y a les bisannuelles qu'on va retrouver à l'automne. Mais derrière, il y a de plus en plus, effectivement, une part importante donnée à la plante vivace, parce que bon... L'intérêt de la plante vivace, bah oui, c'est qu'elle revient, c'est qu'elle est souvent une certaine rusticité. Et puis aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la rusticité, ça va être quelque chose de plus en plus important, parce que l'eau, je dirais, dans justement ce jardin, elle prend une place importante, parce que c'est une ressource qui va malheureusement nous manquer si on continue à prélever comme ça directement, je dirais, dans les nappes phréatiques, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler l'eau d'adduction. Hein et pour cela, justement, au lycée horticole, nous avons travaillé aussi ces aspects-là. Parce que nous avons le PLEPA, qui est, un système qui nous permet d'enseigner à produire autrement. Et justement, on est sur la version 2 du PLEPA. Et cette version-là va nous permettre, de valoriser aussi ce que l'on fait. Et aujourd'hui, il y a eu, avec les éco-délégués, parce que nous avons des éco-délégués, on a travaillé sur l'exploitation, sur la récupération des eaux de pluie, hein, en particulier pour le local maçonnerie, puisque jusqu'à présent, bon voilà, on a un local maçonnerie qui est protégé, on travaille sur des montages en sable pour que justement nos apprenants puissent apprendre à construire des murets, à faire des et tout ça se démonte, hein, on n'a pas de gaspillage de matériaux, parce que là aussi il faut penser aussi au recyclage des matériaux. Et puis, jusqu'alors, on utilisait de l'eau d'adduction. Juste pour mouiller le sable, pour pouvoir damer, etc. On s'est dit, mais là, il y a un gaspillage de cette eau, qui est une eau précieuse, parce que de l'eau, peut-être qu'on en aura beaucoup sur le coin de la figure quand on a des orages, mais de l'eau potable, ça, c'est quelque chose qui va devenir, malheureusement, peut-être de plus en plus difficile à trouver. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas récupérer. Et ça, c'est les élèves avec technicien, monsieur Philippe Blangy, qui a participé, à la mise en place, avec les éco-délégués, d'un système de récupération, des eaux de pluie.
Moi, j'avais une question un peu plus générale, on ne va pas parler de ça. Il y a combien de professeurs et il y a combien d'élèves ?
Vous allez voir que la taille des lycées agricoles et par rapport à l'éducation nationale est beaucoup moins importante, hein, puisque ce sont toujours c'est divisé par 4, par 5, etc. Alors aujourd'hui, on peut parler au niveau des effectifs de l'enseignement dans Haribécourt, des apprentis, donc pour la rentrée, on prévoit à peu près 170-180 apprentis. Et en élèves, on prévoit autour de 150-160 élèves. Donc on est un petit lycée. Hein, forcément, que par rapport à l'éducation nationale avec des lycées c'est des lycées d'enseignement général, mais à 2000 ou 2500, c'est très très petit.
Ce qui est bien, c'est que j'ai noté que vous avez des classes avec 16 enfants, et ça permet d'avoir quand même un contact plus sympa que quand on a des classes de 35 ou 40 élèves. Là, ça permet quand même d'avoir une éducation qui soit plus proche.
Oui. Mais s'il y a de la théorie et de la pratique, donc on ne peut pas avoir 35 élèves pour la pratique.
Voilà, il y a forcément des doublements pour les travaux pratiques. Et quand vous parlez des 16 élèves, en effet, c'est sur la troisième de l'enseignement agricole que nous ouvrons à la rentrée. Mais c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la différence avec l'éducation nationale. C'est vrai que l'enseignement agricole a ses propres programmes, comme le disait M. Rouzeau, mais on a une particularité, c'est que quasiment tous les diplômes ont à peu près 20% du référentiel, du programme qui est lié, qui est donné à la liberté de l'établissement. Donc, du coup, voilà, ça permet quand même d'adapter à nos élèves, à notre orientation, les programmes nationaux. Et du coup, ça s'appelle l'autonomie pédagogique et on a à peu près 20% sur chaque diplôme, 20% d'autonomie pédagogique. Et ça, c'est intéressant. Et là, on crée nous-mêmes notre programme. Et souvent, c'est souvent de la pédagogie de projet. Notamment, on a sur des CAP, on va travailler sur des thèmes et on les change tous les ans ou tous les deux ans. Il n'y a pas de souci. Et autour de ces thèmes, on va travailler en même temps ce qu'on appelle les maths aussi. Quand on fait de l'aménagement paysager, on travaille des maths et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir travailler des maths en dehors d'une salle parce que sinon, voilà, on cloisonne beaucoup et les élèves cloisonnent beaucoup. Et on a une autre particularité, c'est la pluridisciplinarité. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours dans ces programmes, une partie de programme, par exemple, dans les troisièmes, on a 7 heures d'autonomie pédagogique sur les 29 heures. Et sur ces 7 heures, il y a 3 heures et demie, la moitié du temps, il y a 2 enseignants dans la classe. Okay. Voilà, donc du coup, ça permet vraiment 2 enseignants de matières différentes pour éviter de cloisonner. Parce que quand on est dans son métier professionnel, quand on est en activité, on ne sort pas la case maths, la case etc. On travaille tout ensemble. Et ça, quand il n'y a que des cours individuels comme ça, c'est difficile. Alors que là, le fait de mélanger un prof d'économie, par exemple, économie-gestion, et un prof d'aménagement paysager, ben on va raisonner en même temps le travail de la terre ou le travail de la plante et l'économie, l'investissement, l'amortissement, etc. Donc, vous voyez, c'est des petites choses et c'est vraiment une particularité, la pluridisciplinarité de 2 enseignants qui enseignent en même temps dans la même classe.
Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous avez une petite dédicace à faire à quelqu'un au niveau de la musique, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Je sais qu'il y a une enseignante qui nous écoute, Madame Gans, Angélique, qui est professeure au lycée horticole de français. Et donc, une petite dédicace pour elle, Céline Dion. Eh ben.
Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire. Et ces visages d'enfant, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais encore un soir, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en rêve. À peine encore, même s'il est tard. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, Ça va même pas se voir, ça restera entre nous. Au juste un léger retard. Y'en a tant qui tuent le temps, tant et tant qu'ils le perdent ou le passent. Tant qu'ils se mentent, inventant les rêves en des instants de grâce. Où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier. Encore au soir. Encore une heure. Encore une larme de bonheur. Une faveur. Comme une fleur. Un souffle. Une erreur. Un peu de nous. Rien de tout. Pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report. Il est tard. C'est pas grand chose. Rien qu'une pause. Que le temps, les horloges se reposent. Et caresser. Juste un baiser. Un baiser. Encore un soir. Encore une heure, un peu de nous, un rien de tout, un soir.
Vous êtes bien sûr RVM 93.7 et c'est votre émission Le Bouche à Oreille qui reçoit aujourd'hui le lycée horticole de Ribécourt. Donc petite dédicace, on rappelle le prénom de votre collègue ?
Angélique Gans.
Eh bien Angélique, c'était pour vous un petit morceau de musique, Céline Dion. Donc une fan de Céline Dion. Voilà.
Tout à fait.
Il en faut, il en faut.
Il en faut. Donc je rappelle les auditeurs, si vous voulez réagir à cette émission, le Facebook de RVM FM et le mail auditeur au pluriel @rvmfm.com. N'hésitez pas, soyez curieux, posez des questions. On transmettra au lycée horticole. Messieurs, on rentre dans le détail de quelles sont les filières que vous proposez, comment on peut s'inscrire. Vous avez encore besoin de collégiens, lycéens. Allez, on y va. Qui veut s'y coller en premier?
J'ai parlé de façon présentée de façon générale les formations et puis mes collègues qui sont là depuis plus longtemps que moi et qui enseignent pourront bien entendu approfondir hein. Alors sur le lycée horticole, sur l'EPL horticole hein, voilà, de Ribécourt, nous proposons des formations de la 3e au BTS, hein, donc de la 3e enseignement agricole au BTS, donc soit par la voie de l'apprentissage, soit par la voie de scolaire, ou pour la formation adulte aussi, hein, puisqu'on a du BTS en formation adulte, du bac pro en formation adulte, etc. Et d'autres, en formation adulte, c'est un peu particulier, hein, parce qu'il y a des formations courtes, hein, qui vont durer une journée, deux journées, et puis des formations longues qui vont durer une année. Donc voilà, okay. Et c'est ça l'intérêt aussi d'un EPL, c'est qu'on offre les trois voies de formation sur le même site. C'est important parce que les trois voies de formation sont ensemble, travaillent ensemble. Et je dirais que c'est assez particulier encore, peut-être un petit peu plus encore à Ribécourt, où il y a un vrai travail collaboratif entre l'apprentissage, le scolaire et les adultes. Hein, je veux dire, à Ribécourt, par exemple, il y a un internat. Les internes, ce sont les apprentis et les scolaires qui sont à l'internat ensemble. La restauration scolaire aussi, les salles de cours aussi, etc. C'est les mêmes lieux de vie, c'est les mêmes lieux d'enseignement. Et puis, c'est les mêmes terrains pédagogiques, hein, les mêmes terrains et les mêmes outils. D'ailleurs, on partage tout. Hein. Donc ça, c'est intéressant parce que, du coup... Ça permet aussi de favoriser hein, ce qu'on appelle la mixité de parcours. C'est-à-dire qu'un jeune qui veut faire, qui commence, son bac pro, hein, alors c'est vrai que parfois c'est un peu jeune, l'apprentissage, 14 ans, 15 ans, Pour rentrer en apprentissage, il y en a qui ont besoin de mûrir un petit peu avant. Du coup, ils peuvent faire une seconde en scolaire, puisqu'il y a le même diplôme en apprentissage. Et ils vont faire la seconde. Et après, s'ils sont mûrs et qu'ils préfèrent faire de l'apprentissage, ils peuvent faire leur première et terminale en apprentissage. Ou commencer juste la terminale en apprentissage. Donc, vous voyez, c'est la mixité de parcours, c'est très intéressant. Alors, je dis toujours dans ce sens-là, parce que dans l'autre, c'est assez rare. C'est très rare qu'on ait des apprentis qui passent en scolaire. Parce qu'après, quand on a goûté un petit peu à l'indépendance et puis un petit salaire, c'est toujours compliqué de revenir.
On a envie de rester dans cette situation-là. Oui.
Tout à fait. Donc, voilà, c'est alors, dans quel domaine, nos pôles de compétences, ils sont assez clairs, on en a parlé, donc l'aménagement paysager, bien entendu, l'horticulture, et puis un peu plus là sur la formation adulte, tout ce qui est forêt, autour de la forêt, puisqu'on a un CAP travaux forestiers, on a une formation aussi alors en apprentissage et en adulte des lagueurs. Grimpeurs et lagueurs. Donc là, vous savez, tous les écureuils que vous voyez dans les arbres, c'est impressionnant quand ils sont dans les arbres. Ouais. Et l'avantage, c'est qu'on a un beau terrain de jeu aussi, puisqu'on a à peu près 2-3 hectares de bois. Sur le site et du coup on entretient et ils peuvent s'entraîner et pour l'ensemble de toutes les formations notamment ce qu'on appelle la reconnaissance des végétaux il y a tout un tas d'essences tout un tas de végétaux à reconnaître et à apprendre à reconnaître donc c'est surtout alors notre pôle de compétences en scolaire en apprentissage il est surtout développé en effet en horticulture et en paysage. Et donc, sur ces formations en scolaire, nous avons un CAP de jardinier paysagiste. Il se fait en scolaire et en apprentissage. Et nous avons un bac pro horticole, production horticole. Et puis, un bac pro aménagement paysager. Donc, bac pro aménagement paysager qui se fait aussi en apprentissage ou en scolaire. Vous voyez, il y a à chaque fois, assez souvent, la parité. Voilà. Et puis, deux BTS, donc toujours dans cette même voie, donc BTS horticole, production horticole ou BTS aménagement paysager. Alors ça, par contre, les BTS horticole aménagement paysager se font en apprentissage. Très bien. Voilà un petit peu pour... préciser un peu les différents diplômes.
Donc, une petite question. Les élèves qui viennent, ils sont inscrits normalement en classe, mais les adultes qui viennent, ils viennent dans quel cadre ? Ils viennent de manière individuelle ou c'est des gens qui sont en reconversion professionnelle ? Oui. Des choses comme ça, ils sont envoyés par des organismes ?
Il y a toutes sortes
de... On peut venir à titre individuel comme ça ?
Tout à fait. Aussi,
oui. Oui, tout à fait. Il y a des gens... on a dans le public, effectivement, des gens qui sont en reconversion professionnelle. Qui sont présentés par Pôle emploi, par exemple, mais aussi des gens qui, spontanément, à un moment donné, à 30, 5 ans, 40 ans, des gens qui ont quelquefois des métiers, mais qui n'ont rien à voir avec les métiers du paysage ou de la production, mais qui décident, des anciens banquiers, des gens qui travaillent dans la pharmacie, qui veulent donner du sens.
Comme des stages, quoi.
Voilà.
Ça ressemble à un stage.
Alors, des retraités.
C'est plus qu'un stage.
Il y a des reconversions professionnelles, peut-être.
C'est ça. Des reconversions professionnelles, mais au sens, c'est-à-dire des gens qui veulent trouver du sens, donner du sens, je dirais, et retrouver peut-être ce lien aussi avec la nature, la terre. Et donc là, c'est plus que des stages, parce que il cherche dans la reconversion professionnelle, je dirais, l'acquisition de capacités, de compétences par la suite. Et donc, ils vont suivre une formation entre 6 et 9 mois, si on compte, je dirais, la partie liée à au stage, justement, en entreprise. Et des gens qui ont déjà, souvent, quand ce sont des adultes comme ça, qui ont déjà un passé professionnel, souvent accompli, réussi, ils ont déjà des projets. Moi, j'ai déjà eu, parce que moi j'interviens aussi quelquefois en formation adulte, ce sont des gens qui ont par exemple dans le cadre du maraîchage, des gens qui ont des projets d'installation.
Ouais, ils ont déjà réfléchi.
Ils ont déjà réfléchi. Beaucoup, quelquefois, ils sont même déjà, bricolent déjà, entre guillemets, et ils n'attendent plus que l'acquisition, je dirais, de compétences techniques pour se lancer, quoi.
D'accord. Et je vois que vous avez aussi des bancs d'essai, donc 3 jours de découverte des métiers du paysage et de l'horticulture.
Tout à fait.
Donc là, ça peut être une bonne opportunité pour découvrir.
Voilà, c'est ça. Le banc d'essai, c'est, on pourrait appeler ça, je dirais, un peu, c'est une fenêtre, une ouverture de fenêtre, pour prendre un peu, je dirais, le parallèle avec l'informatique quand on ouvre des fenêtres. Mmh. Ben, et voilà, c'est l'occasion pour des jeunes de s'immerger, l'occasion de s'immerger, effectivement, le temps de... 2-3 jours de s'immerger au sein même des classes pour lesquelles nous intervenons. Donc ils vont découvrir par exemple comment ça fonctionne en CAPA jardinier paysagiste. Alors on va leur montrer un petit peu le volet je dirais enseignement ce qu'on peut avoir en classe, mais aussi bien entendu, et c'est pour ça qu'ils viennent, on va les mettre avec les nôtres directement donc en situation d'apprentissage sur le terrain. Et donc, ils découvrent réellement, je dirais, les facettes du métier sur le terrain, à travers donc, ces bancs d'essai, où ils sont vraiment, c'est comme son nom l'indique, un banc d'essai. Donc, ils essayent la formation.
Alors, j'ai vu les taux de réussite là au bac, au CAP, c'est des beaux... Hein, c'est des beaux pourcentages, monsieur le proviseur directeur.
Monsieur le proviseur directeur, on est très fiers de ces résultats.
Oui.
Et bien sûr, pas plus tard qu'hier, on avait la réunion de fin d'année qui a félicité toute son équipe de cette réussite. C'est une très belle réussite, 100% au CAP.
C'est la meilleure promo pour vous, ça.
La meilleure promo, ça parle de tout seul, il n'y a pas de problème. Donc du coup, c'est très très bien. Et puis 100% aussi, on a fait quelques 100% au BTS production horticole cette année. Et puis sinon, les résultats sont autour de, pour le lycée, 88% de réussite. Et,
bravo, messieurs.
Vraiment identique.
L'éducation porte ses fruits. Hein. Voilà. On peut dire ça ?
Tout à fait.
Ouais,
c'est valorisant aussi pour vous, je suppose.
Oui.
C'est une grande fierté. Hein,
oui. C'est valorisant parce que... on arrive souvent, je vais parler pour ma chapelle que je connais bien, c'est le CAPA jardinier paysagiste. Ce sont des jeunes qui sont souvent un petit peu en rupture de banc scolaire, qu'ils ont un manque de confiance. Et donc nous, l'objectif, c'est de redonner confiance à ces jeunes pour en faire, je dirais, des personnels en qui on aura confiance, donc des professionnels en qui on aura confiance. Donc c'est finalement leur montrer que ils ont toute leur place. Alors bien sûr, c'est pas facile, ce qui est très important, c'est ce qui fait le miel de notre métier, c'est le fait de les voir quelques années après, une fois qu'ils ont eu leur diplôme, et de les retrouver, parce qu'ils nous reconnaissent plus facilement que nous on les reconnaît, parce qu'ils sont tout jeunes, donc ils évoluent, moi je n'évoluerai plus beaucoup. Ils nous reconnaissent et on discute, ils ont donc alors après une famille, ils ont une assise professionnelle, et ça c'est notre plus belle réussite.
Et d'ailleurs parfois ils viennent ensuite comme évaluateurs, etc., comme professionnels, où ils prennent des stagiaires, des apprentis, le cycle se fait comme ça aussi.
Le lien n'est pas rompu, il y a toujours quelque chose.
Tout à fait, oui, on revoit, qui arrive dans l'établissement, il y avait des examens qui se déroulaient dans l'établissement, et il y avait 2 professionnels qui venaient pour l'évaluation, et ces professionnels qui avaient été élèves dans l'établissement il y a pas mal d'années, qui avait été élève dans l'établissement. Donc voilà, donc tout ça, c'est une vraie fierté.
Ils ont dû se dire, on revient à ce qu'on a connu il y a quelques années, on revient au bercail.
Mais vous avez une tâche importante quand même, parce que souvent, on considère que les enfants qui vont là, pour eux, c'est une voie de garage au départ. C'est des enfants qui n'arrivent pas dans l'enseignement général et tout. Donc on les met là, comme on les mettrait pour faire... Donc c'est une tâche qui est importante pour vous, de donner confiance à ces gens-là.
Tout à fait. Et puis, c'est aussi... il faut savoir que les métiers, de la production, de l'horticulture ou même de l'aménagement paysager, ce sont quand même des métiers très techniques.
Bien sûr. On est d'accord.
Que ce soit en bac pro...
C'est pas encore arrivé dans les mœurs, c'est encore beaucoup de gens. Quoi.
Malheureusement, oui. Ouais. Parce que ce sont des métiers très techniques qui demandent de bonnes compétences. Mmh. Et surtout, un esprit très ouvert. Parce que quand on travaille, par exemple, l'aménagement paysager, lorsqu'on est élève en bac pro ou même en BTS, il faut avoir une culture, une solide culture, parce que ça, c'est très important. Parce que quand vous voulez intervenir pour structurer un milieu, bah, il faut connaître l'histoire du lieu. Mmh. Et pour ça, il faut remonter sur... voilà, savoir se documenter. Mmh. Et quelquefois rechercher, quand on voit par exemple ce qui peut se faire au château de Compiègne, quand on veut restaurer, je dirais, certaines zones, bah, on réétudie un petit peu, les commandes qui ont pu être faites, etc.
Ça demande des compétences agronomiques en plus.
Ça demande des compétences agronomiques, oui, tout à fait.
On a des cours d'histoire de l'art des jardins aussi. Ah, ouais. Donc, ouais. C'est très important, oui. Et je rajouterais, hein, Yannick, mm-hmm. Que nos élèves, lorsqu'ils sortent de notre établissement, trouvent du travail tout de suite, quasiment instantanément. Mm-hmm. Et même poursuivent leurs études. Donc en BTS, en licence professionnelle, oui. Et même en école d'ingénieur.
Vous avez des partenariats peut-être avec des entreprises locales ou pas, ou pour aider justement à trouver un métier rapidement ?
Tout à fait, oui. Alors donc, par le biais de l'apprentissage, nous avons les maîtres d'apprentissage avec qui on travaille en étroite collaboration. Et aussi par la voie scolaire, à savoir que nos élèves réalisent environ 12 semaines de stage durant la scolarité. Mmh. Donc ils travaillent dans des entreprises au sein des services espaces verts de communes, d'entreprises privées ou d'entreprises de production horticole. Hein.
Tout à fait.
Et généralement, ils sont embauchés. Hein.
Oui. Donc, puis c'est la ville de Ribécourt, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'employés locaux, d'employés municipaux. Donc peut-être qu'ils vous soutiennent aussi à ce niveau-là. Alors,
tout à fait.
Il y a quelques-uns des employés municipaux qui sont passés par Ribécourt.
Eh ben,
beaucoup même.
Même beaucoup, oui, c'est vrai. Et qui sont là aussi. Et c'est ce qui fait, je dirais, ce continuum, en fait, entre, d'une part... les formations, mais aussi le monde professionnel.
Mmh. On travaille aussi, bien entendu, avec les organisations professionnelles type l'UNEP, etc., pour être à l'écoute de l'orientation qu'il faut donner, en effet, à nos formations, puisque je disais tout à l'heure, on a 20% d'autonomie pédagogique et il faut l'utiliser, ces 20%, pour adapter aux besoins locaux du travail, etc.
Justement, quel est le profil de vos collégiens lycéens ? Ce sont plus des filles, plus des garçons ? Est-ce que c'est un pourcentage qui est plus garçon, peut-être ?
Ça dépend les filières, mais sur la filière aménagement paysager, c'est vrai qu'on a plus de garçons que de filles.
C'est quand même assez physique, quand même,
oui. Ça se mécanise. On n'a pas de... Enfin, je veux dire, c'est des métiers qui sont tout à fait faits pour les filles. Hein, alors, c'est vrai que c'est certainement dans les habitudes, etc. Mais aujourd'hui, une fille peut, tout comme un garçon, réussir dans cette filière-là. Il n'y a pas de problème. Après, sur la filière horticole, on a un petit peu... on a plus de filles, voilà. Mais sur l'ensemble, en effet, de l'EPL, il y a plus de garçons que de filles. Mais bon, toutes les filles ont l'air de bien se sentir dans l'EPL, que ce soit à l'internat. Voilà, il y a une bonne entente entre les garçons et les filles.
Mmh. Nous en avons de plus en plus, des filles. Hein. Mmh.
Mmh. J'ai une petite question pour les deux professeurs. Là. Vous faites de la formation, vous vous formez sans arrêt, parce qu'avec le réchauffement climatique, avec le manque d'eau et tout ça, il y a une évolution qui se fait dans la façon de pratiquer.
Bah, bien
sûr. Donc vous avez... une évolution qui est obligatoire.
Nous sommes obligés de nous former, je dirais, de nous adapter, je dirais, aux conditions climatiques, si on pourrait dire ça.
Ouais, c'est
d'adapter
ça.
La technique, de revoir les fondamentaux, et c'est pour ça que l'agronomie a toute sa place. Elle a un petit peu été, je dirais, surtout en aménagement paysager, où il suffisait d'adapter le sol, de planter les espèces que l'on voulait, puis c'est comme ça qu'on se retrouve d'ailleurs avec des espèces envahissantes, parce que ça pas du tout.
Mais ça marche plus, certaines espèces comme les frênes ou les choses comme ça, il y a plein de. Avec le réchauffement qui ne sont plus là.
Qui ne sont plus là, tout à fait. Donc on est obligé de repenser, je dirais, la façon de faire. Et puis il y a aussi des contraintes qui ne sont pas uniquement d'ordre environnemental. Là aujourd'hui, on le voit sur l'exploitation, on est en train d'effectuer un nouveau virage. De refaire de la pépinière, ce qu'on a fait à un moment donné, mais il y a très longtemps, moi je ne l'ai pas connu, c'est aussi d'arriver sur des modèles de production qui sont plus résilients vis-à-vis de l'environnement. Mmh. C'est aussi à travers des modèles d'études, comme par exemple l'aquaponie, on va mettre, en parallèle deux systèmes de production, un système de production qui est animal, qui est la pisciculture, et puis de l'autre, un système de production végétale. Donc l'un fournissant les éléments nutritifs à l'autre système. Donc il y a une espèce de cercle vertueux dans ce dispositif. Et effectivement, on est obligé de s'adapter. On voit par exemple sur le poinsettia, bon, bah, c'est une culture qui demande beaucoup d'énergie, il faut chauffer beaucoup. Aujourd'hui, on est dans une contrainte climatique parce qu'effectivement, si on chauffe beaucoup, on émet beaucoup de CO2. Puis en même temps, on est dans une contrainte économique. Malheureusement, le contexte, je dirais, extérieur, nous amène, à, par rapport au coût de l'énergie, bah, à repenser, je dirais, des solutions. Il faut que les systèmes, que ce soit de production, mais aussi d'aménagement, soient le plus résilients possible vis-à-vis de l'environnement.
C'est pour ça que c'est intéressant, à mon avis, parce que c'est une perpétuelle évolution, quoi.
Tout à fait.
Tout à fait.
Et on est obligé d'évoluer de toute façon,
mais
puisque en ce moment, on est obligé de le réchauffement climatique, tout ça, il faut en tenir compte.
On ne peut pas dire je suis formé, j'ai été formé en 1980, donc depuis 80, je fais la même chose. Donc c'est ça qui est super, quoi.
C'est impossible. En
fait. Et on l'adapte aussi sur l'exploitation, puisque d'ailleurs, d'après l'exemple de Yannick, on faisait de la culture de poinsettia, et aujourd'hui, on va la réduire de 80% pour justement développer la pépinière. Parce qu'aujourd'hui, le poinsettia prend beaucoup trop d'énergie et on chauffe avec du gaz tout l'hiver. Donc voilà, on a fait le choix de transférer, de changer de production pour s'adapter à cette évolution.
Alors, il nous reste très peu de temps, messieurs. On va conclure sur 2-3 questions. J'aurais voulu savoir ce que vous produisez, c'est consommé comment, c'est utilisé comment ?
Alors, sur la partie maraîchage, du coup, on a développé, pour le coup, du circuit court, puisqu'on consomme les produits fabriqués l'exploitation dans la cantine scolaire. Donc il y a tous les légumes. Aujourd'hui, alors là, c'est un peu compliqué sur la période d'été, puisqu'on ne les consomme pas, mais on va en transformer, puisqu'on produit des tomates ou des courgettes, etc. Mais on aura aussi les betteraves, on aura aussi on aura encore des courgettes, on aura la salade, tous ces produits, des radis. On produit tout ce qu'on peut produire comme légumes et on les transforme en cuisine. Et c'est une fierté de nos élèves aussi, de manger.
Ils consomment ce qu'ils ont travaillé. Oui. Est-ce que vous faites des ventes à l'extérieur aussi ou pas ?
Alors oui, voilà, ce qu'on appelle les serres du château sont ouvertes toute la semaine, du lundi au vendredi, pour la vente de tomates, notamment là qui démarre, d'aubergines, très belles aubergines, très belles tomates, etc. Et puis toujours des fleurs qui sont en vente toute l'année sur les serres du château, donc sur l'exploitation horticole.
Alors, on va donner les contacts, puisqu'on est en fin d'émission, les liens, comment se renseigner, comment aller voir un petit peu ce lycée horticole à Ribécourt.
Alors, il y a plusieurs manières, bien entendu, sur notre site internet. Après, on est aussi, on peut donner une adresse mail, donc c'est... Alors le site horticole, donc www.lycée-horticole-ribécourt.fr, et sur l'adresse mail, si vous avez ou souhaitez avoir des entretiens pour des candidatures, donc c'est lpa.ribécourt@educagri.fr. Nous avons encore, en effet, des possibilités de recrutement. L'apprentissage, on recrute jusqu'au mois de septembre. Alors, il y a des classes qui sont déjà bien complètes, mais il y a encore quelques places, donc n'hésitez pas à nous téléphoner. Sur le lycée aussi, la troisième de l'enseignement agricole, qui va permettre de découvrir un petit peu l'horticulture, les paysages, un petit peu tout. Et puis surtout, travailler son projet professionnel, c'est ça qui est important. Donc, il y a encore quelques places aussi, puisqu'on l'a ouvert cette année. Donc, c'est vrai qu'en termes de communication, donc on n'a pas encore fait tout à fait le plein, mais il nous reste 2-3 places pour atteindre les 16 élèves. Donc il n'y a pas de problème. On peut nous appeler et on fera un entretien. Je ferai l'entretien et on peut accepter les jeunes rapidement.
Merci messieurs. Donc je rappelle que c'est un enseignement public et gratuit.
Exactement.
Merci monsieur Toussaint, donc le directeur proviseur. Merci monsieur Benfried, professeur
en aménagement du paysage.
Voilà.
Je vous remercie.
Et monsieur Rousseau, pareil, même merci. Poste. Merci les auditeurs. On va remettre le diplôme d'émancipation radiophonique parce que nous aussi on remet des diplômes. Voilà. Et donc on vous dit bonne écoute et bonnes vacances puisque là on va faire une pause. Hervé, on va se reposer un petit peu. Luc, on va se reposer un petit peu. Et on se retrouve au mois de septembre.
Voilà. Sans bonne problème.
Bonne écoute sur RVM 93.7. Rediffusion le dimanche à 16h et le mardi à 10h. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
C'était une émission de la rédaction de RVM.